Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du Mago Carré. Et comme à chaque numéro, je suis avec Audrey Jourdain, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous Audrey?
Très bien, ravie d'échanger avec nos invités sur le bureau.
Et oui.
Grand sujet du moment.
Grand sujet. Donc je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Et donc vous l'avez dit, on va parler des bureaux, de cette classe d'actifs avec, on va voir une baisse des investissements. Justement, alors pour en parler, on a deux invités. Christophe Burkhardt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'IWG et Edouard Stevens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur acquisition et asset management de Mata Capital. On va en discuter dans quelques instants avec vous. Tout de suite, Audrey, on se met en jambe avec votre édito.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Le marché de l'investissement des bureaux a une nouvelle fois manqué de couleur en ce début d'année. Avec 1,7 milliard d'euros d'investissement au premier trimestre, le marché français s'est contracté de 55% sur un an. Encore plus lourde fut la chute pour le marché francilien qui a subi des pertes de 64% sur la même période. Nous retiendrons également la chute du prix moyen des bureaux franciliens de 20% sur un an. Elle s'est établie à 6200 euros du mètre carré. Les causes sont multiples, dont les cinq principales sont les suivantes. La réduction des besoins en surface tertiaire. Deuxième, l'accélération de l'obsolescence du parc en termes d'usage et d'environnement. La troisième, le manque de visibilité quant au nouveau cycle économique avec la remontée du coût de la dette et le renforcement de ses conditions d'accès. Le manque de visibilité quant au nouvel écosystème du travail avec ses rythmes de télétravail non encore stabilisés, le flex office encore en phase de test pour nombreuses entreprises. Et bien sûr, l'arrivée de nouveaux concepts comme la semaine des 4 jours amenant nombreuses interrogations. Et enfin, la perte de compétitivité de l'immobilier dans la location multiclasse d'actifs. Mais terminons sur une note positive, le marché francilien de la demande placée est resté stable au premier trimestre 2024 avec près de 452 000 m² commercialisés.
Oui, c'est toujours important de terminer avec du positif. Place à nos invités.
Les invités du carré.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous deux, messieurs. Alors, pour commencer, peut-être, Edouard Stevens, pouvez-vous nous présenter Mata Capital?
Oui, alors Mata Capital, c'est une société de gestion immobilière qui, aujourd'hui, gère 2 milliards d'actifs sur toute classe d'actifs. On a historiquement, puisque la société a été créée en 2015, acheté beaucoup de retail et on fait du bureau, de la logistique, toute classe d'actifs et on n'est pas agnostique, on regarde des data centers aujourd'hui et tout ce qui peut se
c'est
faire.
Vrai que ça marche bien les data centers, hein. C'est très en vogue en ce moment. Alors justement, la classe d'actifs bureaux représente combien en termes de...
Quelle est la part aujourd'hui on a à peu près 30% de nos actifs qui sont en bureau.
Et ça a diminué depuis 2015, ça a augmenté?
C'est assez stable, ou une légère diminution, parce que le marché, comme on le disait juste avant, était plutôt atone en termes d'investissement bureau. On a aussi attendu que le marché se repositionne, mais on est actuellement plutôt à l'acquisition sur des immeubles de bureaux.
Donc en fait, vous achetez les immeubles,
exactement.
C'est ça? Et vous les gérez ensuite?
Exactement, on est une société de gestion, on intègre tout, à la fois la partie gestion bien entendu, restructuration, maîtrise d'ouvrage, on a vraiment des équipes plurielles et qui gèrent un projet de A à Z, avec des stratégies soit long terme, soit court terme.
D'accord, alors quand vous dites court terme, c'est combien?
C'est des stratégies value-add, entre 3 et 5 ans, avec des restructurations d'actifs. On va repositionner un immeuble obsolète pour le remettre au goût du jour, le faire correspondre aux nouveaux usages. C'est un gros enjeu, et pour derrière le revendre, stabiliser.
Alors Audrey nous a parlé des bureaux franciliens, ouais. Des bureaux en France, plutôt au niveau national. Vous, justement, où c'est que vous achetez ces bureaux?
Alors aujourd'hui, on est basé à Paris, à Lyon et en Allemagne. On regarde dans les villes où nous sommes positionnés des actifs de bureaux, parce qu'on aime bien avoir une puissance locale en tout cas, et on regarde principalement la centralité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les utilisateurs, et on le voit d'ailleurs dans la demande placée, se recentrent principalement sur Paris,
intramuros,
donc on regarde des immeubles centraux, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon ou sur d'autres secteurs.
Et pourquoi l'Allemagne?
L'Allemagne, c'est on a investi de façon très spécifique sur du logement en Allemagne, dans une zone proche d'Hambourg, avec une équipe dédiée. Donc voilà, mon vocation à se développer à terme ou en Allemagne et à l'échelle européenne, au travers de la SCPI qu'on vient juste de lancer.
Et qui sont vos clients?
Alors nos clients, c'est des clients, ça peut être comme vous et moi, c'est-à-dire qu'on a des clients particuliers qui investissent dans nos fonds, également des institutionnels et des family office. C'est une clientèle très variée.
Alors pouvez-vous nous présenter votre projet qui s'appelle 360 ?
Oui. Alors le projet 360, c'est un projet qu'on a acheté en 2019. Donc on a mûri pendant le Covid. C'est un projet de bureau et de commerce sur lequel d'ailleurs était installé auparavant Régus, on en parlait tout à l'heure, sur lequel on mène une restructuration lourde. Qui donc a été mûri pendant le Covid avec des nouveaux usages et la volonté au travers de ce projet d'attirer des utilisateurs qui vont chercher un outil de travail neuf, vertueux, puisqu'en fait c'est une restructuration et pas un immeuble neuf, donc avec un bilan carbone très positif et avec des usages neuf, moderne, permettant aux collaborateurs de revenir et d'avoir envie de revenir au travail.
Donc c'est multi-usage, hein, s'il y a des bureaux et des commerces.
Exactement, il y a du bureau principalement, ouais. Des services bien entendu, d'accord, puisqu'on a, on a plus de 20% de l'immeuble qui est dédié aux services, que ça soit des restaurants, du fitness, d'accord, des services à la personne, des rooftops, ouais, des terrasses, des balcons. On a vraiment, puisqu'on a plus de 1300 m² d'espace extérieur, donc vraiment un projet qui correspond aux usages aujourd'hui, et du commerce en pied d'immeuble, parce qu'en fait c'est un immeuble qui est dans une zone où les commerces manquaient.
Et on c'est a où, voulu... c'est dans quelle ville ?
C'est à Vanves, pardon. Avant, ouais. Ouais, je pensais qu'on l'avait précisé au début. C'est à Vanves, situé sur la porte de Bansion, sur lequel il y a un gros développement, en fait. C'est une zone qui, historiquement, n'avait pas bougé depuis 30 ans, et qui, elle, aujourd'hui, le terrain de beaucoup de développement, que ce soit au travers de projets de logement, avec Woodéum qui développe à côté de chez nous deux sujets, la RIVP et notre projet juste à côté, et bien entendu, de l'autre côté, côté Porte de Versailles, les projets de Viparis et de tout du parc des expositions de la Porte de Versailles, puisqu'on est vraiment entre les deux. Donc il y a une réhabilitation urbaine autour de nos immeubles qui est très forte.
Alors justement, la réhabilitation urbaine, la restructuration, on en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Bon, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible. Là, qu'en est-il ? C'était facile ? Est-ce que
Alors, nous, on partait d'un immeuble de bureau qu'on a amélioré en bureau. Ouais. Donc c'est plus simple. C'est sûr que transformer aussi du bureau
en logement, c'est pas toujours possible.
Hein. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. C'est surtout une question de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un prix et la restructuration de logement entraîne des pertes de surface et une restructuration lourde. Donc c'est souvent une équation économique plutôt qu'une impossibilité technique. Dans notre cas, on a transformé quelques zones de bureaux en commerce, mais on a surtout ouvert un immeuble sur la ville qui était complètement fermé sur lui-même, sans usage pour les utilisateurs et sans intérêt pour la ville. Donc on a complètement transformé le quartier avec notre projet.
Est-ce que c'est un projet qui est réplicable selon vous ? Est-ce que vous avez d'autres projets dans le même style ?
On a d'autres projets. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on est plutôt sur des projets centraux et des projets mixtes, parce que c'est aussi dans l'air du temps. Bien c'est sûr. Ce que je recherche à la fois les utilisateurs, mais aussi les villes, puisqu'on se rend compte qu'il y a une crise du logement. Donc il y a des besoins qui sont différents. Donc aujourd'hui,
c'est un peu la ligne que s'est fixée le gouvernement aussi, hein, qui a incité.
Exactement. Après, cet emplacement, on referait, et par rapport à cet actif, on referait un projet similaire. Chaque projet étant différent, c'est difficile de dire qu'on va répliquer le même projet.
Bien sûr.
On n'est pas promoteur, on ne prend pas des terrains nus. Par contre, refaire le même projet à cet endroit-là a beaucoup de sens.
Alors, on parle beaucoup du flex-office aussi en ce moment. C'est une tendance, hein, c'est devenu une tendance. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette tendance ?
Je pense que cette tendance est propre à chaque utilisateur en fait. C'est-à-dire que chaque utilisateur va déterminer en fonction de son taux d'occupation, de sa volonté de faire revenir ses salariés au bureau, va déterminer des ratios de flex-office. Aujourd'hui, nous, on prévoit nos immeubles pour permettre à l'utilisateur d'être très flexible. Mais je pense que l'enjeu pour beaucoup de sociétés, notamment certaines qui sont installées en deuxième couronne, en première mal desservie, c'est de faire revenir les gens au travail et c'est d'embaucher des nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu des sociétés. On le sent dans les recherches, dans les sociétés qui se positionnent sur nos actifs. Et on a conçu l'immeuble autour de ça, c'est-à-dire de la flexibilité, de pouvoir à la fois densifier, mais d'avoir énormément de services partagés et surtout de donner l'envie à l'usager, donc à l'employé, de revenir au travail.
Et c'est vrai que c'est compliqué hein, pour les bureaux qui sont situés en première, deuxième couronne, on voit que...
On se rend compte que des bureaux, et on visite, puisqu'il y a des immeubles qui sont sur le marché à la vente, on visite des immeubles où les immeubles sont complètement vides, certains jours, pas toujours, mais en tout cas, donc c'est l'enjeu, je pense, pour beaucoup de sociétés qui sont installées un peu plus loin, c'est de faire revenir ces usagers, ces utilisateurs. Donc ça fait partie de nos projets, et c'est dans cette démarche-là qu'on conçoit l'ensemble de nos projets.
Un gros défi, donc. Ouais. Alors, Christophe Burkhardt, est-ce que vous pouvez nous présenter IWG ?
Alors, IWG, c'est le nom d'une holding qui opère un certain nombre de marques dans le domaine du coworking et des espaces de travail flexibles. Entreprise qui est née en 1989, présente aujourd'hui dans 120 pays et qui propose un réseau de 4000 centres un peu partout dans le monde, sous différentes marques, marques Spaces, Regus par exemple, qui sont assez connues dans notre marché.
Et alors, quelles sont les missions d'IWG ?
Les missions, c'est de proposer aux entreprises d'adopter finalement un système d'infogérance où au lieu de gérer vous-même les espaces de travail pour vos collaborateurs, eh bien vous venez chez un opérateur dont c'est le métier, qui va vous offrir le service pour que ces effectifs-là puissent travailler et puis souvent un accès à un réseau assez large qui permet à nos clients de travailler de plusieurs points en fonction de leurs déplacements.
Alors, c'est une entreprise, une holding qui date pas d'hier, hein. Ça fait un petit moment. Vous étiez précurseur en quelque sorte.
Oui, 89, premier centre à Bruxelles. Ouais. Et donc, l'invention de ce modèle de flexibilité par rapport au modèle conventionnel qui était prépondérant, qui reste aujourd'hui majoritaire. Mais on va dire que notre modèle petit à petit grignote. Et je dirais que dans un marché qui est un peu compliqué en termes de croissance, on a nous à gérer un sujet un peu différent, qui est qu'il faut qu'on ouvre de plus en plus pour pouvoir répondre à la demande qui nous est adressée par nos clients et par nos prospects.
Donc les demandes, justement, elles sont sur tout le territoire. Qu'en est-il au niveau de la localisation ?
Alors, les demandes, donc, elles sont en forte croissance. L'année dernière, on a signé près de 900 nouveaux sites dans le monde. Donc, on a commencé l'année à 3000 et on en a signé 900 en une seule année. Donc, il y a vraiment une accélération. Ouais. On voit le même phénomène en France. Hein. On a ouvert 15 centres l'année dernière. On va en ouvrir entre 20 et 25 cette année. Donc, une accélération forte. Et dans un cadre de travail à distance, hein, de télétravail, eh bien, effectivement, ce qui nous est demandé, c'est pas simplement d'être présent dans les quartiers d'affaires ou dans les centres-villes, mais d'être vraiment dans toutes les villes et les villages de France, j'ai envie de dire, pour que n'importe quel de nos clients, lorsqu'il est en déplacement, puisse trouver facilement et rapidement un endroit où se poser pour pouvoir travailler.
Et alors, justement, est-ce que la France avance au même rythme que les autres pays ? Qu'en est-il ? C'est vrai que depuis le confinement, il y a eu un peu un chamboulement au niveau mondial. Qu'en est-il de la France par rapport au reste du monde ?
La France se comporte bien, puisque dans le groupe IWG, qui par sa taille est assez représentatif du marché, la France est le troisième acteur du groupe en termes de chiffre d'affaires. Donc, on n'a pas à rougir de notre position. Je dirais qu'on bénéficie de quelque chose d'assez fort, au même titre que d'autres pays latins, c'est que globalement, les gens veulent revenir sur leur lieu de travail après le confinement, ce qui n'est pas forcément le cas dans des pays anglo-saxons, par exemple. D'accord. Où ils souhaitent rester 100% du temps chez eux, au travail. Ouais. Voilà, ouais. Absolument. Donc, on bénéficie de cela. Donc, ces gens-là, en moyenne, reviennent 3 jours par semaine sur le lieu de travail. Ouais. C'est-à-dire, pendant 2 jours, ils travaillent d'autre part. Ça peut être de chez eux, mm-hmm. mais ça peut être aussi proche de chez eux, dans des réseaux comme les nôtres. Et c'est pour ça qu'on ouvre de plus en plus dans des villes qui sont des villes souvent résidentielles, pour permettre à ces gens-là d'éviter de travailler de chez eux, parce que c'est pas toujours la panacée, mais de venir dans nos centres. Et donc, des villes comme Bourg-la-Reine, Maisons-Laffitte sont des endroits dans lesquels on a ouvert des centres pour répondre à ce type de demande.
Donc, c'est ce qu'on appelle le travail hybride.
C'est exactement ça.
C'est entre le télétravail hybride. Et puis le travail sur place.
C'est tout à fait ça. C'est de dire, on passe d'un modèle, on va dire pré-Covid majoritaire, qui est de venir 5 jours sur 5 sur le lieu de travail de l'entreprise, à un modèle beaucoup plus flexible, où on donne le choix des lieux de travail aux collaborateurs, avec une organisation du travail qui cadre ça, évidemment. Hein, c'est pas buffet pour tout le monde, mais c'est de dire effectivement qu'on a plusieurs possibilités pour que les collaborateurs viennent régulièrement pour des questions de culture d'entreprise sur le travail de l'entreprise et pouvoir rencontrer leurs collègues, et le reste du temps d'avoir des choix beaucoup plus faciles et beaucoup plus flexibles.
Mais c'est ce que vous dites. Les Français sont sensibles à ça, hein, plus que d'autres.
Oui, c'est notre caractère latin, notre culture latine, j'imagine, mais toutes les études montrent effectivement qu'on fait partie des pays où cet équilibre est en train de se mettre en place de manière assez forte par rapport à des pays anglo-saxons. Donc, cette espèce d'équilibre entre le lieu de travail proposé par l'entreprise et d'autres lieux, qui peuvent être des lieux proches de son domicile, qui peuvent être des réseaux qui sont utilisés en fonction des déplacements professionnels. Quelquefois, on nous demande aussi d'ouvrir des centres dans des lieux de vacances, parce que de plus en plus, les gens partent avant leur congé, travaillent la journée, puis commencent à profiter de leurs vacances le soir, restent souvent aussi après. Et donc, dans des villes comme Arcachon, par exemple, on voit qu'il y a des...
Il y a une demande.
Exactement, il y a des demandes et des centres de coworking qui sont en train de s'ouvrir.
Alors, quel service vous proposez dans vos centres de coworking, justement ?
Ben, je dirais les premiers services qui ont été proposés, c'était des services qui étaient liés au travail. Donc, ce qu'on appelait à l'époque les services généraux, donc l'accueil physique, l'accueil téléphonique, l'informatique, etc. Aujourd'hui, on nous demande des services qui se rapprochent plus du bien-être. Donc, ça peut être des services de sport, des services de voilà, des services de coiffeur, de voilà, toutes sortes de services. voilà. Donc, ça, c'est la deuxième génération qui ont c'était les services qu'on a lancés à partir des années 2015. Et on nous demande de plus en plus de services aujourd'hui qui sont plutôt des services liés à la performance des entreprises. On nous demande, par exemple, d'avoir la présence d'un banquier, la présence d'un avocat régulièrement dans nos centres pour que, finalement, nos clients puissent bénéficier de synergies. C'est-à-dire, au lieu d'avoir son propre avocat, c'est d'avoir un avocat qui est disponible pour l'ensemble des clients, dont ils peuvent bénéficier. Et donc, il y a un intérêt économique évident, puisque quand vous prenez quelqu'un qui vient une journée, bah, il va être disposé à recevoir un grand nombre de clients. Et donc, pour chaque client, son service va coûter moins cher. Donc voilà, il faut toujours apporter des services qui aident les entreprises à se développer. C'est vraiment notre objectif.
Mais comment vous sondez justement ces besoins là? Comment vous interrogez vos clients?
Oui, on leur demande. On leur demande régulièrement. On leur propose des choses aussi. Ouais. Et donc, en fonction de leurs réponses, on peut déployer ce type de nouvelle offre.
Et alors, comment vous imaginez la suite, les années à venir?
Ben, je pense que le marché de l'immobilier est enfin en train de se disrupter, pardon pour l'anglicisme. Hein. C'est quand même l'un des derniers grands secteurs de l'économie dans lequel il y a beaucoup d'argent qui ne s'est jamais véritablement remis en cause et qui fonctionne de manière assez archaïque par rapport à d'autres secteurs qui, dans le domaine de l'entertainment ou du transport, on a vu Netflix, on a vu Blablacar. Chez nous, on a eu un modèle quand même très basé sur le bail conventionnel qui demande aux entreprises de s'engager sur des durées de 6, 9, 12 ans, comme si elles pouvaient être sûres que c'était la bonne taille, le bon prix, la bonne localisation. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les cycles économiques sont extrêmement courts et que même les grands groupes ont besoin de s'adapter. Donc, je pense qu'on n'est pas à l'arrêt. Je pense qu'on est vraiment dans une phase de transformation dans laquelle les mots-clés comme les usages, comme la flexibilité, comme le respect de l'environnement sont en train de changer totalement la manière dont les entreprises vont fonctionner. C'est pour ça qu'on continue à avoir beaucoup de transactions, moins d'investissements, parce qu'effectivement, il faut lire l'avenir dans le domaine de l'investissement. Mais sur l'usage, je veux dire, on a toujours besoin de bureaux. Les bureaux ne sont pas morts. Il faut repenser la manière, je pense, dont ils sont organisés, repenser la manière d'animer le territoire. Parce que la localisation. Et donc, tout ça, c'est un changement qui est extrêmement intéressant, je pense, pour les différents acteurs à vivre.
Et on a vu que ça touche tous les pays. Hein. Il y a des bureaux, beaucoup de bureaux vacants aussi à New York, par exemple. On parlait des premières, deuxième couronnes, mais ça touche tous les pays, ça touche le monde entier au final.
Oui, ça touche le monde entier. Oui, New York souffre justement de ce dont je parlais tout à l'heure, les pays anglo-saxons qui, dont les collaborateurs travaillent majoritairement de chez eux, donc il n'y a plus besoin d'avoir des prises à bail à New York. Donc oui, c'est une transformation, mais en aucun cas. Le bureau est mort, pas du tout. La consommation du bureau est en train de changer. Le fait de proposer des offres dans les territoires, ça c'est important. Donc c'est message au groupe Mata et à tous les investisseurs. C'est il y a de plus en plus de demandes dans des territoires périurbains, dans des villes secondaires. Et là, l'offre, elle est relativement faible et l'offre de qualité, elle est quasiment inexistante. Et nous, on a énormément de demandes dans ces zones-là et on cherche vraiment des partenaires promoteurs, investisseurs pour aller proposer des actifs de bonne qualité dans ces endroits-là.
Dans ces territoires. Je vous vois faire oui de la tête, Edouard, vous confirmez.
Je suis complètement d'accord et je pense que ça va être un axe de développement aussi pour Mata de faire des partenariats ou de regarder des actifs sous un prisme différent avec des opérateurs comme IWG.
On serait ravis de venir avant, dès que possible.
Revenir.
Et de revenir.
Eh bien voilà, un marché qui est conclu. Longue vie au bureau. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Audrey. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro du Mag au Carré. À très vite sur Radio Imo.
Le Mag au Carré en partenariat avec la lettre Mètre Carré.